Changez vos pensées et transformez vos finances avec le séminaire « L'économie du royaume » avec le pasteur Joel Spinks. Que cette première session soit une source d'inspiration pour votre vie spirituelle.
On va juste commencer et on va se poser quelques questions. Premièrement, pourquoi un séminaire sur les finances? Pourquoi on a besoin d'avoir un séminaire sur les finances? Bien, en fait, 80% des divorces, en fait, sont causés par des conflits au niveau des finances. 80% des divorces. Et là, on va se poser la question, bien, est-ce que c'est important dans le monde chrétien de parler des finances? Bien, pensez-vous que Dieu est concerné par les couples qui se divorcent? Oui, certainement. Il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent qu'on ne devrait pas parler d'argent à l'Église. Parce qu'ils ont toutes sortes de mentalités qu'on va voir aujourd'hui. Mais plusieurs chrétiens sont séduits et ils se disent on ne devrait pas parler de l'argent à l'Église parce que ça ne fait pas partie du monde spirituel. Mais la majorité d'entre nous, quand on le réalise, on passe toute notre semaine à travailler pour avoir quoi? Pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? On passe toute une semaine à travailler, donc on investit notre vie, en fait, pour avoir un salaire, mais on ne devrait pas parler à l'Église, de cette chose qui nous motive toute la semaine. Ça fait aucun sens, le réalisez-vous. Donc, le Seigneur, lui, est concerné par tous les aspects de nos vies. Il est concerné par nos couples, nos familles. Il veut que les familles puissent bien aller. Il est concerné certainement par la vie d'Église. Mais il est aussi préoccupé, il est concerné pour vous, concernant vos finances personnelles. Dieu n'est pas indifférent, mais il connaît votre situation actuelle. Il est concerné pour vous. Il a un plan pour vous. Amen. Il a un plan très précis. Peu importe. Aujourd'hui, peut-être vous êtes ici endetté, peut-être dans le désespoir, ou peut-être vous êtes déjà très béni financièrement et vous voulez juste avoir d'autres principes, mais peu importe votre situation actuelle, Dieu a une volonté précise pour votre vie. Il a un plan précis. Il y a des lois spirituelles qu'on va apprendre ensemble. Et vraiment, ça me réjouit que vous êtes là. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont bénéficier de votre vie parce que vous allez recevoir des choses qui vont révolutionner quand même toute votre vie. Et c'est pour ça que je dis, vous êtes intelligent d'être ici. Parce que vous savez, le contenu de tout ce que je vais vous donner aujourd'hui prendrait environ un mois et demi d'enseignement à l'église le dimanche matin. Le réalisez-vous? Tout ce qu'on va voir ensemble, ça prendrait environ un mois et demi. Et qu'est-ce qui se passerait si on faisait ça pendant un mois et demi à l'église, prêcher juste sur les finances? Les gens auraient toutes sortes de mentalités où et ils diraient, bien, ils sont là juste pour l'argent. Et pourtant, on a besoin de prendre du temps pour apprendre la volonté de Dieu et avoir la connaissance de Dieu, le yada de Dieu concernant les finances. Mais on ne prendra pas un mois et demi, on va prendre 5 heures aujourd'hui, 5 heures ensemble pour s'exposer. Et puis, on va voir ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Et là, on va avoir un choix. C'est soit que je crois ce que Dieu dit ou je rejette ce que Dieu dit. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, je peux m'exposer, connaître ce que Dieu dit et dire « Amen, oui, Amen ». Et moi, ce que j'ai décidé de faire dans ma vie, c'est de croire ce que Dieu dit et aussi l'appliquer dans ma vie. Et j'espère que ça va être votre décision aujourd'hui également. Donc, c'est l'auteur Craig Hill qui disait en fait que 80% des divorces sont causés par des conflits au niveau des finances. Si la mentalité chrétienne évangélique qui nous dit qu'on ne devrait pas parler des finances, si c'est vrai, bien, j'aimerais ça remettre en question cette pensée-là. On mentionne la foi 215 fois dans la Bible. Donc, vous pouvez déjà voir 215 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit le mot foi mentionné. Ensuite, on mentionne le salut 218 fois. Et on mentionne les finances 2084 fois. Voyez-vous la différence? 215 fois la foi, 218 fois le salut, mais 2084 fois les finances. En fait, la moitié des paraboles du Seigneur Jésus-Christ mentionnent les finances. Donc, si on ne devrait pas parler des finances, parce que ce n'est pas spirituel, quelqu'un aurait dû le dire au Seigneur Jésus, quelqu'un aurait dû le dire aussi à l'apôtre Paul, qui enseigne sur les finances dans la Bible. Non, ce qu'on veut faire, c'est comprendre ce que Dieu dit et recevoir toute la parole, tout le conseil de Dieu, sans rien enlever. Amen. Et là aussi, peut-être, vous vous posez la question, pourquoi on a décidé de remettre 100% des revenus de ce séminaire au Gédéon? Bien, la raison pourquoi je voulais faire ça, c'est parce que je voulais premièrement, bon, être une bénédiction pour les Gédéons qui sont une association d'impression de Bible. Moi, je crois que la parole de Dieu vaut la peine d'être imprimée. Amen. Mais aussi, je voulais trier. Je voulais trier, je voulais rendre ce séminaire un petit peu inaccessible, mais aussi en même temps très accessible. Si vous êtes là, vous avez payé 25 $ qui en fait est remis à l'Association internationale des Gédéons. Mais souvent dans le monde chrétien, on a reçu des choses gratuitement et puis après, puisque c'était gratuit, on n'a pas considéré la valeur. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez investi 25 $ vous aviez dû prendre une décision. Est-ce que ce 25 $ va être pour certaines choses ou pour l'enseignement de la parole de Dieu? Vous avez valorisé l'enseignement que vous allez recevoir aujourd'hui et certaines personnes n'ont pas valorisé l'enseignement, donc ils ne sont pas ici. Vous comprenez ça? Donc, ces personnes-là qui ont dit « Non, moi, le 25 $ je préfère aller manger une poutine. » C'est vrai, ça. Hier, j'ai mangé une poutine avec mes filles. Félicité qui a mangé autre chose. Mais en gros, hier, j'avais le goût de manger une poutine. Ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas mangé une poutine. Ça m'a coûté 36 $ nos poutines puis la pizza. Vous dites, mais c'est où, là? C'est la pizza, je pense, qui a coûté quelque chose, mais aussi la livraison, puis les taxes, tout ça, et le pourboire. Voilà. Mais mon repas d'hier soir coûtait plus cher que ce séminaire d'une journée. Les chrétiens, parfois, sont scandalisés quand ils doivent payer. Mais pourquoi les Gédéons? C'est parce que je voulais trier et je voulais rendre ça plus difficile. Je voulais que ceux qui avaient vraiment soif, mais c'est ces gens-là qui vont être dans la salle, des gens qui veulent vraiment apprendre, des gens sérieux. Amen. C'est ça que je voulais, moi. Et puis, je crois que vous êtes sérieux et vous allez apprendre des choses parce que vous êtes sérieux. Et dans Philippiens 4, verset 17, l'apôtre Paul avait dit, « Ce n'est pas que je cherche ou que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Et c'est ça que je recherche, moi aussi. C'est votre fruit. Je veux que vous soyez intéressés, sérieux, mais aussi après que vous puissiez voir un changement dans votre vie et que vous puissiez avoir des fruits véritables. Vous allez dire, après ce séminaire-là, ma vie a changé. Après ce séminaire-là, j'ai découvert des principes de Dieu et toute ma vie a changé. Je crois de tout mon cœur que votre vie peut changer. Et oui, on va toucher les finances, mais en fait, vous allez découvrir des lois spirituelles que vous pourrez appliquer dans plein de choses. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que oui, notre Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a délégué à l'être humain des choix, une autorité spirituelle. Vous pouvez choisir de faire le bien comme vous pouvez choisir de faire le mal. Aujourd'hui, je ne prendrai pas le temps d'expliquer l'autorité du croyant. Mais comprenez, oui, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a donné des choix à l'être humain. Et l'être humain peut découvrir dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu et des lois spirituelles qui fonctionnent, que vous soyez chrétien ou non chrétien. La gravité, c'est une loi qui existe, que la science a découvert. Mais que vous soyez chrétien ou non chrétien, si vous vous jetez en bas d'un pont, vous allez tomber, n'est-ce pas? Vous ne flotterez pas, parce que c'est une loi que Dieu a établie. Si les scientifiques découvrent des lois, en fait, c'est Dieu qui est l'auteur de ces lois-là. Amen. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur, et nous avons vraiment le privilège de lire la Bible, découvrir les lois de Dieu, les appliquer. Ce qui est anormal, c'est quand les enfants de Dieu rejettent les lois spirituelles de Dieu à cause des traditions, à cause des commentaires des êtres humains qui n'ont pas été renouvelés par la parole de Dieu. Ce qui est tragique, c'est quand les non-chrétiens lisent la Bible, découvrent les lois spirituelles et les lois fonctionnent dans leur vie. Ça, c'est tragique. Pour nous, pas pour eux. C'est bon pour eux. Mais je veux répéter ce que je viens de vous dire. Il y a des non-chrétiens qui lisent la Bible. J'en ai entendu des non-chrétiens. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Mais ils ont dit, j'ai lu la Bible, j'ai découvert tel principe, et ce principe a fonctionné dans ma vie. Et ils vont le citer dans des séminaires, comme aujourd'hui, mais ce n'est pas dans une église où ça se déroule, à l'hôtel ou dans plein de lieux. Ils vont dire, la Bible dit ça. Et on sait que la personne n'est pas sauvée née de nouveau, on sait. Mais la personne dit, la Bible dit ça, j'ai entendu telle chose. La Bible dit ça, la Bible dit ça. On va citer les proverbes, les psaumes. On va citer le roi David, on va citer le roi Salomon. Et pourtant, c'est des gens, ceux qui sont rassemblés, ne sont pas sauvés nés de nouveau, ni celui qui parle. Mais pourtant, ils ont découvert des lois spirituelles. Parce que la Bible dit toujours vrai. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, la Bible est toujours vraie. Et là, on voit ces gens non-chrétiens qui disent « Ah bon, je vais faire exactement comme la Bible dit. » Et ça fonctionne. Et là, on a des chrétiens qui ne prennent pas le temps de lire la Bible, ou ils vont lire la Bible avec des lunettes de la tradition, qui dit « Ah non, non, ça ne peut pas être pour nous les chrétiens. Certainement pas. » Et on ne croit pas ça. Et on ne croit pas, on n'applique pas, et on ne vit pas les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux vous exposer à la parole. Amen. Établissons premièrement l'autorité spirituelle de ce séminaire. Quelle est notre autorité? 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Il est écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, ou si vous préférez, dans le chemin de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Amen. Donc, la parole de Dieu, la Bible, aujourd'hui, est notre autorité spirituelle, notre autorité dans tout ce qu'on va dire. La Bible est notre livre de référence. Amen. OK, donc, vous comprenez ça? Dans Matthieu 15, au verset 6, le Seigneur Jésus a lui-même dit, « Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Donc, Jésus a lui-même dit, en parlant aux religieux, il a dit, vous annulez la parole de Dieu. Comment ça? Par votre tradition. C'est quoi une tradition? On peut avoir de très bonnes traditions. Okay? On peut dire, bien, moi, pendant la période de l'action de grâce, on va inviter la famille, on va manger de la dinde, on va célébrer le Seigneur, on va faire le tour de table, on va dire, bon, toutes les raisons pourquoi nous sommes reconnaissants. Bon, ça, c'est une belle tradition, n'est-ce pas? Donc, les traditions ne sont pas tous mauvaises, mais certaines personnes vont avoir une autre sorte de tradition, c'est la tradition des hommes, c'est-à-dire la pensée de l'homme s'impose sur la pensée de Dieu. C'est-à-dire, on va croire plutôt ce que les hommes disent que ce que la Bible dit. C'est là où on a un problème. Donc, Jésus a dit, en parlant aux religieux de son époque, il disait, vous annulez la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on va lire des promesses de Dieu, votre tradition chrétienne évangélique pourrait vous dire, « Ah non, je ne peux pas croire ça. » Vous allez être remis aujourd'hui, je vous le dis à l'avance, je vous le prophétise, vous allez être remis aujourd'hui devant un choix, croire la tradition ou croire la Bible. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à faire ça? À remettre en question vos croyances actuelles et vraiment croire ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que je vous le dis, vous allez être remis en question aujourd'hui, c'est sûr et certain. Et le Seigneur Jésus a dit, vous annulez la parole. Et la majorité des chrétiens évangéliques annulent la parole. Ils vont lire le même texte que je vais vous lire, mais ils vont dire, oui, mais ce n'est pas possible pour nous pour telle raison. Donc, pourquoi lire un livre qu'on ne peut pas croire? On le lit sur le plan intellectuel. On a compris beaucoup de choses sur Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui comprennent des choses sur Dieu dans leur tête, mais ils ne comprennent pas le Dieu spirituellement. Ils ne comprennent pas Dieu spirituellement. Et c'est tragique. Quand on s'adresse à un enfant de Dieu, on leur lit la parole de Dieu et à cause de leurs lunettes religieuses, des lunettes de tradition, ils sont bloqués. Je l'ai vu à maintes reprises dans ma vie. À maintes reprises. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à enlever les lunettes de la tradition et dire, Seigneur, je veux avoir des yeux purs, je veux avoir ta vision. Donne-moi, Seigneur, comme l'apôtre Paul a prié, donne-moi d'avoir ta vision. Illumine mes yeux spirituels pour voir la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à faire ça aujourd'hui? À enlever vos lunettes traditionnelles? C'est ce qu'on veut faire. Et dans Osée 4:6, il est écrit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc, on doit connaître la parole de Dieu et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, on va établir des principes ou des croyances de base qu'on devrait avoir, qui devraient déjà être évidentes. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est, dans cette prochaine partie, on a déjà dit, bon, la Bible est l'autorité, vous êtes tous d'accord? Si vous êtes en désaccord, la porte est ouverte. Mais vous êtes à l'Église de la Victoire aujourd'hui, donc vous savez que vous êtes dans un contexte chrétien, un contexte où la parole de Dieu va être citée. Amen, on n'a rien caché et on est fiers de croire la parole de Dieu. Mais maintenant, j'aimerais ça établir des croyances de base, parce que comme je vais avancer, peut-être si je n'établis pas cette base-là, cette fondation-là, vous pourrez peut-être dire, oui, mais la Bible dit ça. Oui, mais la Bible dit ça aussi. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Est-ce qu'on peut enlever tous les oui, mais maintenant? OK. Premièrement, dans Matthieu 6, verset 19, Matthieu 6, verset 19 à 20, il est écrit, en fait, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Qu'est-ce qu'on ne devrait pas s'amasser sur la terre? Est-ce que la Bible nous dit qu'on ne devrait pas avoir de maison? La Bible dit, le Seigneur Jésus a lui-même dit, « Ne vous amassez pas des trésors. » Enregistrez maintenant le mot « trésor ». Ce qu'on devrait comprendre, c'est que Dieu devrait être notre trésor. Dieu doit être notre trésor. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus, dans les évangiles, lorsque Jésus dénonçait l'avarice, il ne dénonçait pas le fait qu'une personne pouvait posséder des choses. Il était contre le fait qu'une personne s'affectionne aux choses matérielles. Jésus était contre le matérialisme. Vous me suivez? Donc, Jésus était contre le matérialisme. Il voulait qu'on aime Dieu de tout notre cœur. Mais savez-vous quelque chose? Vous pouvez posséder une maison et ne pas aimer votre maison en tant que trésor. Vous pouvez aimer Dieu de tout votre cœur, même si vous avez une maison. Amen. Comme vous pouvez être dans la rue et aimer une maison plus que Dieu. Donc, ce n'est pas une question de ce que vous possédez matériellement qui détermine votre cœur. En fait, vous décidez si vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre pensée. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On doit comprendre ici, en fait, que tout ce qui est de Dieu, en fait, le cœur de Dieu doit être notre trésor. On doit aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que toute autre chose. J'aimerais ça vous dire aussi, si vous êtes propriétaire d'une maison en ce moment, et le Seigneur vous disait, je t'appelle à relâcher cette maison et la donner et la semer à tel couple, à telle famille, si vous aimez Dieu, vous allez faire ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Vous devez comprendre aujourd'hui, on veut plaire à Dieu avec notre vie. J'étais en Ontario il y a quelques semaines, en fait, la semaine passée. Et puis, j'étais avec un couple qui me racontait, en fait, qu'ils avaient donné leur maison pour bénir un couple. Ça, c'est un couple qui aime Dieu plus que les biens matériels. Amen. Donc, au tout début, comprenez ceci, on ne devrait pas faire de notre maison, de notre voiture, de toutes les possessions terrestres, on ne devrait pas faire de ces choses-là des trésors. Dieu doit être notre trésor numéro un. Amen. Gloire et notre seul trésor, en fait. OK, donc vous me suivez jusqu'à présent? Ensuite, l'avarice ou l'amour de l'argent est un péché. Je veux le dire au départ. L'avarice est un péché. 1 Timothée chapitre 6, verset 10, donc 1 Timothée chapitre 6 et au verset 10, il est écrit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, l'amour de l'argent, c'est ça le problème. Le texte ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. L'avarice est le problème. Mais vous pouvez avoir de l'argent et si vous aimez Dieu de tout votre cœur, il n'y a pas de problème. Amen. Vous me suivez? Vous voyez, c'est dans la parole de Dieu. Je n'invente rien en ce moment. Donc, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Je pense en ce moment à une personne qui était dans cette église, qui est venue à cette église parce qu'il m'avait entendu prêcher sur certaines choses et puis il n'avait pas des oreilles pures. Il avait des oreilles remplies, en tout cas, un cœur rempli d'avarice, si on veut, mais ses oreilles entendaient quelque chose que je ne disais pas. Il venait à l'église en espérant de devenir riche. Et cette personne était remplie de cet amour de l'argent et il s'est égaré loin de la foi. Ce texte-là est vrai. Ce texte-là est vrai. Mais on ne peut pas regarder à sa vie et dire, « Ah, ben voilà. » Voilà, la Bible ne dit pas vrai. Non, on devrait plutôt comprendre que l'amour de l'argent est un problème. Mais l'argent en soi n'est pas un problème. OK. Gloire à Dieu. Et dans Luc 12, verset 15, il est écrit, Jésus a dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Donc, comprenez ceci, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. N'évaluez jamais la vie d'une personne selon ses biens matériels. Ne dites pas, ah ben cette personne-là a beaucoup d'argent ou très peu d'argent parce que vous examinez les choses extérieures. Peut-être vous jugez des gens, vous dites, ah ben cette personne-là est bénie parce qu'elle a une belle maison. Vous ne le savez pas si cette personne a choisi de semer 90 % de ses revenus dans la mission, par exemple. Vous me suivez? Donc, vous pouvez, admettons, moi, si je donne tel pourcentage aux pauvres, vous ne le savez pas. Vous me suivez? Vous ne le savez pas. Donc, vous ne pouvez pas évaluer quelqu'un ou les fruits de la vie d'une personne selon les choses extérieures. Jésus l'a dit ici, gardez-vous avec soin de toute avarice, car de la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Il y a des gens qui vont vivre pour des biens matériels. Et puis, ils vont être remplis de cet amour de l'argent. Mais Jésus dit, non, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ce n'est pas ça qui fait de nous une bonne ou une mauvaise personne. Notre vie ne dépend pas de ça. Et en même temps, on ne peut même pas évaluer le succès d'une personne sur le plan financier en regardant à ses biens matériels. Parce que vous ne connaissez pas son cœur et vous ne connaissez pas non plus ce qu'il fait avec son argent. OK, ça c'est une chose que je voulais vous aider à comprendre aussi. On poursuit encore, n'aimez pas l'argent. Ecclésiaste, chapitre 5, au verset 10. Il est écrit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore une vanité. OK. Donc, au tout début, vous avez enregistré que dans ce séminaire, on a établi que l'amour de l'argent, en fait, c'est un péché. L'avarice, c'est un péché et on ne devrait pas faire des biens matériels notre trésor. Vous avez tous suivi jusqu'à présent? Gloire à Dieu. Ce texte que je viens de vous lire dans Ecclésiaste 5, verset 10, je vais le relire. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Ceci veut dire, tant et aussi longtemps vous êtes là, vous essayez d'avoir de l'argent et dès que vous avez de l'argent, vous l'aimez. Bien, vous ne serez jamais rassasié par cet argent. Parce qu'en fait, on a besoin d'être rassasié par le Seigneur Jésus-Christ. C'est juste lui qui peut remplir notre cœur. C'est juste lui qui peut satisfaire les désirs de notre âme. C'est seulement le Seigneur Jésus qui est capable de vraiment transformer notre vie, nous remplir de son amour. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dans des séminaires sur les finances, ils restent vides. Même s'ils peuvent vivre des percées, ils peuvent découvrir des lois spirituelles, mais ils demeurent vides. Vaut mieux mourir dans la pauvreté et avoir Jésus que d'être riche en biens matériels et pauvre spirituellement. Mais ce qui est merveilleux, on n'a pas à choisir. Dieu ne nous dit pas qu'on doit être pauvre dans le matériel pour être riche spirituellement. Et il y a eu une doctrine qui a circulé depuis des années dans l'Église traditionnelle du Québec où on était encouragé à faire le vœu de pauvreté. Et on a cru que la pauvreté, c'était la sainteté, en fait. Et dans l'Église chrétienne évangélique au Québec, nous croyons toujours dans le vœu de la pauvreté. Nous croyons toujours, dans la majorité des églises évangéliques au Québec, nous croyons fermement que la pauvreté égale la sainteté. Et vous verrez pourquoi je vais vous dire ça. Mais vous verrez que les racines de l'Église de cette province, l'Église qui a gouverné pendant longtemps, vous verrez que les racines sont toujours là dans le cœur des chrétiens évangéliques au Québec. On n'a pas déraciné le mensonge, donc on vit dans le mensonge. Et après un certain moment, on se permet de... OK, on se sépare un peu de cette pensée-là, mais pas pleinement, pas entièrement. Et on va voir aujourd'hui comment Dieu, en fait, a un autre rapport pour nous. Donc, Ecclésiaste 9,5 nous dit, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » On ne devrait pas aimer l'argent, on devrait aimer Dieu. Là, maintenant, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Plusieurs chrétiens n'aiment pas l'argent, mais ils perçoivent négativement l'argent. Ils ont une perception très négative de l'argent. On s'imagine, par exemple, que l'argent est sale et immoral. Plusieurs chrétiens détestent entendre parler de l'argent. Avez-vous déjà parlé avec un chrétien? Il déteste entendre parler de l'argent. Amen. Bon, il y en a une personne ici. Mais c'est vrai, vraiment, plusieurs chrétiens détestent entendre parler de l'argent. Ces mêmes personnes qui n'ont pas reçu la révélation, en fait, que Dieu est leur source en toutes choses, ces mêmes personnes qui n'ont pas reçu l'enseignement sur les finances, s'organisent humainement pour arriver financièrement. L'autre jour, j'étais au courant d'une situation d'un frère d'une autre église qui avait fait des choses malhonnêtes. Et puis, j'étais encore une fois dégoûté. Je me disais, mais pourquoi la personne a fait telle chose? Mais cette personne n'avait pas d'enseignement sur les finances. Donc, la personne n'a pas la révélation que Dieu est sa source. Il est sa propre source parce qu'il a rejeté l'enseignement ou il n'a jamais reçu l'enseignement. Donc, il s'imagine, je dois m'organiser toute seule. Vous comprenez, c'est très, très grave. Quand on n'a pas la pensée de Dieu sur une chose, surtout concernant les finances, bien, on va s'organiser nous-mêmes parce qu'on n'a pas compris que Dieu est la source. Donc, on est là, bien, je vais m'organiser, là. Telle chose ne fonctionne pas bien. Ah, bien, je vais peut-être ne pas payer mes impôts. Je vais peut-être faire telle ou telle chose. Je vais agir d'une façon malhonnête. On va sortir du chemin de l'intégrité à ce moment-là. C'est grave, n'est-ce pas? Il y a des gens dans des églises ici au Québec qui ne marchent pas dans l'intégrité financière. Et ils ont rejeté le message. Et l'autre fois, j'étais tellement comme estomaqué. J'ai dit, ah, mais pourquoi la personne a fait une chose? C'est un chrétien qui se dit, c'est une personne qui se dit chrétienne, là. Et pourtant, elle agit d'une façon malhonnête. Pourquoi ça? C'est parce qu'elle n'a pas la révélation, premièrement, de la Seigneurie de Christ. Elle n'a pas la crainte de Dieu, mais elle a rejeté la vérité sur les finances. Donc, elle doit s'organiser toute seule. Et c'est triste, ça. Certains manipulent et agissent frauduleusement avec les gens. Aussi, plusieurs chrétiens qui n'aiment pas entendre parler d'argent, ils ont peur de consulter l'état de leur compte de chèque, par exemple, leur compte bancaire. Ils ont peur. Ils ont peur lorsqu'ils voient une enveloppe de la banque. Ils ont peur quand ils voient les lettres Visa. Mastercard, ils ont une enveloppe comme ça et puis là, ils vont mettre une pile sur leur bureau, une pile d'enveloppes sur leur bureau et là, ils vont ouvrir les piles d'enveloppes et puis là, ils vont ouvrir ça rapidement pour ne pas se concentrer sur les montants qu'ils doivent. Plusieurs chrétiens sont comme ça et pourtant, ils rejettent l'enseignement de la parole de Dieu sur les finances. Donc, je vous ai dit en fait que plusieurs ont peur de consulter l'état de leur compte bancaire et de leur relevé de carte de crédit. La peur et la haine ne font pas partie du royaume de Dieu. Amen. Si on a peur et on a peur de consulter notre situation financière et on déteste entendre parler de Dieu ou de l'argent, selon Dieu, bien, tout ça, c'est un désordre spirituel. Amen. Donc, ce qu'on veut faire dans ce séminaire, c'est comprendre les choses bibliquement, et on veut comprendre qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur. Dans Matthieu 6, verset 24, je vais vous lire premièrement dans la version Louis II. Matthieu chapitre 6, au verset 24. Jésus a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Dans le texte Louis II, c'est bien traduit. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Dans la version, par exemple, Bible du Sommeur, on a traduit mammon par argent. C'est une mauvaise traduction. Le texte dit mammon. Le texte ne dit pas argent. Comprenez ceci. Quand Jésus parlait, il se référait à des gens, en fait, qui comprenaient qui était mammon. Nous, aujourd'hui, on ne comprend pas forcément c'est qui mammon. Mais mammon, c'était le dieu de la prospérité des Philistins. Mammon, c'était le dieu de la prospérité des Philistins. Donc, les Philistins croyaient en Mammon, dans le dieu de la prospérité. Jésus ne faisait pas un contraste entre Dieu, le dieu de la Bible, et l'argent. Il disait, en fait, vous devez choisir entre le dieu de la Bible ou le dieu des Philistins. Comprenez-vous? Jésus ne s'opposait pas à l'argent. Il disait, vous devez choisir le dieu de la Bible qu'on va découvrir. Juste dans le psaume 23, la tradition vous enseigne « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » N'est-ce pas? Jésus connaissait le Dieu de la Bible, son Père, certainement. Il disait aux gens ici, dans ce texte, « Vous ne pouvez pas choisir servir le Dieu de la Bible et le Dieu de la prospérité des Philistins. Choisissez votre camp. » Il n'était pas contre l'argent. OK? Donc, dans la traduction, Louis II, c'est bien, mais dans la Bible du Sommeur, c'est une mauvaise traduction. Et ils ont pris la peine de mettre un petit chiffre, comme ça, vous pouvez aller voir dans le bas de la page. Et puis, en fait, le texte nous dit, le vrai mot, c'est « mammon ». OK? Donc, des fois, les êtres humains se donnent ce privilège de changer la Bible. Et puis, ils ont été honnêtes en disant que c'était pas vraiment le bon texte. C'était pas le bon mot. OK. Donc, gloire à Dieu pour ça. On va aller maintenant dans Luc, chapitre 12. On a déjà lu le verset 21, mais on va reprendre maintenant au verset 13. Luc 12, verset 13. Et on va lire un texte ici, concernant l'avarice encore. Mais après, on va ouvrir la parenthèse à vivre autre chose que juste ne pas croire dans l'avarice ou ne pas croire qu'on devrait aimer l'argent. Mais c'était très important qu'on prenne cette première portion pour vraiment établir ces fondements-là. Parce que si on n'établit pas les fondements, bien, on risque de rejeter tout le restant parce qu'on va toujours avoir des « oui, mais, oui, mais, oui, mais ». Mais si on enlève tout ça et on dit « non, non, on comprend que Dieu doit être notre trésor, pas le matériel », bien là, on peut avancer. Amen. Luc 12, verset 13, il est écrit. « Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Au verset 16, il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Donc, Jésus, maintenant, va parler à ces gens-là et il raconte cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Donc, il y avait une belle récolte. « Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Donc, cet homme-là, un fermier, avait une belle récolte, mais tellement béni ici, qu'il disait, « Bien, où est-ce que je vais mettre toutes mes choses, toute cette belle récolte? Où est-ce que je vais mettre cette récolte? » Il dit, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Verset 18, « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Jusqu'à présent, est-ce que c'est mauvais si vous êtes un fermier? Est-ce que ce serait mauvais, par exemple, pour vous de faire un agrandissement sur votre ferme, dans votre grange pour recevoir plus de récoltes? Est-ce que c'est un péché de faire un agrandissement sur une ferme? Non. Amen! Oh, c'est très bien, vous êtes très intelligent. Parce que vous devez comprendre d'où viennent les traditions des hommes, là. Vous allez comprendre des choses. C'est vraiment, comme à la fin de cette journée, peut-être vous allez être en colère parce que vous aurez cru des traditions humaines qui sont en fait très stupides. Parce que dans le naturel, on dirait, ben, ça n'a pas d'allure. Mais dans l'Église, on accepte des mensonges comme la vérité. OK, donc jusqu'à présent, ça va. Verset 19. « Et là, cet homme riche-là, le fermier, « et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bon. Est-ce que Jésus s'opposait à l'extension des greniers de l'homme riche? Non. Jésus s'opposait à l'autosuffisance de cet homme. Cet homme-là n'était pas concerné pour son prochain. Si nous sommes bénis et nous donnons, nous semons, ça c'est bien. Mais cet homme-là, le texte ne dit pas qu'il avait à cœur de semer, d'aider son prochain. Cet homme-là était juste concentré ou vraiment concerné par son gros « je ». Moi, 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 moi. Et Jésus n'aimait pas l'autosuffisance. Donc, remarquez bien, au verset 21, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. » On est là, on fait de ces choses-là, de cette ferme, de cette récolte. Ah, ça, c'est mon trésor. Et en fait, on devient autosuffisant. Mais il disait, Jésus a dit au verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, on peut être riche pour Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que ce texte nous parle d'être riche pour Dieu? Remarquez, je vais le relire. Il est en... Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, cet homme-là n'était pas riche pour Dieu. Mais si cet homme n'était pas riche pour Dieu, est-ce qu'il y a un moyen de devenir riche pour Dieu? Bon, bien, venez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6. Paul communique à son fils spirituel Timothée. Il dit, écoute Timothée, voici ce que tu dois dire aux riches, là. Si l'apôtre Paul dit à Timothée comment il doit prêcher, il lui dit, écoute, tu devrais dire ça aux riches. Bien, en quelque part, l'apôtre Paul comprend que Timothée va prêcher un jour à des personnes qui sont riches. N'est-ce pas? Si je reçois un message que je dois prêcher aux riches, bien, forcément, il va y avoir des riches qui vont entendre le message, qui vont entendre parler d'argent. Est-ce que ça fait du sens? OK. Donc, voici ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, son fils spirituel. Voici ce que tu dois dire aux riches. Donc, 1 Timothée chapitre 6, verset 17 à 18 et 18. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Être riche pour Dieu implique faire des bonnes œuvres. Amen. Des bonnes choses. Aider notre prochain. Démarrer des orphelinats. Démarrer des ministères pour aider des démunis. Amen. Aider notre prochain quand on voit la personne dans le besoin. C'est ça, être riche en Dieu, riche pour Dieu. Être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. C'est ça, être riche pour Dieu. Donc, l'apôtre Paul ne disait pas, remarquez bien, il n'a pas dit à Timothée, dis aux riches là, qu'ils doivent tout donner parce que Dieu est contre la richesse. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, dimanche prochain, là, tu leur diras qu'ils doivent tout donner à l'église locale parce que c'est un péché quand quelqu'un a de l'argent. Il n'a pas dit ça. Il a dit, remarquez, recommande aux riches de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Si notre espoir est dans des richesses, dans notre argent, bien, vous savez, en 1930, quand il y a eu un crash économique, bien, si notre espoir est investi dans de l'argent, bien, quand notre argent disparaît, on n'a plus d'espoir, on devient des désespérés. Mais si notre espoir demeure en Dieu, qui est notre source en toutes choses, bien, même si tout l'argent qu'on avait disparaît d'un seul coup, notre Dieu est encore là. C'est quand, par exemple, quand Mathilde et moi, on a quitté le monde de la télévision anglophone, on a quitté le salaire et tout ce qui venait avec, bien, on a perdu, entre guillemets, notre salaire. Mais on n'a pas perdu notre Dieu. Et Dieu a pris soin de nous surnaturellement pendant 3 mois. On avait le même salaire pendant 3 mois d'une source inconnue, de toutes sortes de sources diverses. Mais notre Dieu, notre source ultime, c'était le Seigneur. Le Seigneur était notre source. Et puis, il a été fidèle. Il a pris soin de nous pendant 3 mois sans salaire. Parce que l'argent, ce n'était pas notre source d'espoir. On ne plaçait pas notre espoir dans l'argent, mais notre espoir et notre confiance étaient en Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour vous, que vous puissiez mettre votre espoir en lui. Amen. Et qu'on puisse arriver un jour devant le Seigneur et vraiment l'honorer toute notre vie, l'aimer premièrement, l'aimer de tout notre cœur. Et un jour, dans Matthieu 25, verset 21, on pourra entendre ceci. « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Donc, jusqu'à présent, est-ce que le pasteur Joel Spinks enseigne qu'on devrait aimer l'argent?
Non.
Pouvez-vous dire plus fort?
Non.
Merci. Est-ce qu'on devrait aimer Dieu de tout notre cœur?
Oui.
Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que c'est une bonne doctrine?
Oui.
OK, c'est bon. Vous m'encouragez. Super, gloire à Dieu. Alléluia. OK, maintenant, parlons de pauvreté. Combien d'entre vous, vous aimeriez ça être de plus en plus pauvre à la fin de cette année?
Non.
Non. OK. OK. On va revenir à la parole de Dieu maintenant. Deutéronome chapitre 28 au verset 15. Deutéronome 28 au verset 15. Je ne prendrai pas le temps de lire toute la parole, en fait, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais vous pourrez prendre le temps, lire Deutéronome au complet, Deutéronome 28 au complet, pour voir, en fait, la bénédiction et la malédiction. Vous pouvez tout lire et vous allez comprendre, en fait, que nous avons un choix, soit être béni, soit être maudit. Ce n'est pas Dieu qui choisit ça. Parce qu'il nous a dit, en fait, dans la parole de Dieu, dans Deutéronome, en fait, qu'il a placé devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous choisissons si on veut vivre, on choisit si on veut être béni par notre obéissance, en fait. C'est comme ça qu'on va choisir, si on croit Dieu et si on obéit. Si on désobéit, bien, si on se retrouve avec des problèmes, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de nos problèmes et Dieu n'est pas responsable de nos mauvaises décisions. Amen. Alléluia. Ça, c'est bon à comprendre, n'est-ce pas? OK. On va établir maintenant la vérité sur la pauvreté. Deutéronome 28, verset 15. Je vais vous lire à partir de la Bible Sommer. Si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ses commandements et ses lois, que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. OK, donc vous avez déjà remarqué le mot malédiction. La malédiction, ce n'est pas la bénédiction. Amen? Il y a une différence entre la bénédiction et la malédiction. Au verset 44, en se référant aux immigrés du verset 43, ce sont eux qui vous prêteront alors que vous n'aurez plus rien à leur prêter. Quand vous êtes tellement démunis, vous n'avez rien à prêter à votre prochain. Ça, c'est une malédiction. Ils seront au premier rang et vous au dernier. Au dernier quoi? Au dernier rang. Verset 48. Vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif. Vous manquerez de vêtements. Et vous serez privés de tout. Ça fait partie de la malédiction. Est-ce que vous l'avez vu dans votre Bible? Est-ce que c'est moi qui invente ça? La pauvreté fait partie de la malédiction. Être pauvre, et là je vais définir la pauvreté, avoir faim et soif et manquer de vêtements. Si vous n'avez pas les moyens pour changer votre garde-robe, si vous êtes là et vous dites « Ah, j'ai jamais une scène, je peux jamais rien m'acheter, je suis toujours cassé financièrement, je peux même pas m'acheter des vêtements. » Si vous parlez comme ça, si vous êtes privé de tout, il y a un événement, une activité, vous aimeriez y aller, vous aimeriez, mais vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'avez jamais la provision nécessaire pour vous payer telle ou telle chose. Vous êtes toujours privé. Ceci fait partie de la malédiction. Est-ce que vous le voyez dans votre Bible? Je vais reprendre le texte parce que vous devez comprendre et recevoir la révélation aujourd'hui que la pauvreté fait partie de la malédiction. Amen. Si vous dites, oui, mais je pensais qu'on était bénis en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Amen. Mais vous devez croire à la bénédiction. Si vous tolérez la malédiction et vous pensez que la malédiction est une bénédiction, il y a un désordre dans votre pensée. Il y a un désordre dans votre programmation évangélique. Il y a une programmation mentale. On était programmé à croire à l'encontre de la parole de Dieu. On ne croit pas ce que Dieu dit. Parce que plusieurs chrétiens croient, mais c'est normal d'être pauvre. Même Jésus était pauvre, l'apôtre Paul était pauvre. Tout le monde sont pauvres dans la Bible. Tout le monde sont pauvres dans la Bible. Ils n'ont jamais entendu parler d'Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, David. Non, on ne parle pas de ces gens-là. Ah, l'apôtre Paul a fait des naufrages. Il savait se réjouir dans la disette comme dans l'abondance. On va souligner souvent les textes qui nous parlent des exceptions. Quand l'apôtre Paul devait, oui, souffrir pour la cause de Christ, je vais ouvrir une parenthèse. Si nous sommes en mission et on doit choisir Jésus-Christ, et oui, peut-être vivre des persécutions, on est mieux de demeurer fidèle à Christ. Et oui, souffrir des attaques de l'ennemi, souffrir les attaques de ces gens qui nous persécutent, c'est préférable de faire ça que de renier notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire, OK, non, je renie Christ et puis là, je vais pouvoir avoir une belle chambre d'hôtel et puis on va me retourner au Canada. Il y a des gens qui acceptent de renier Christ, mais il vaut mieux souffrir. OK, comprenez ceci, il vaut mieux souffrir pour honorer notre Dieu et demeurer fidèle à Dieu que de renier Jésus-Christ. Mais les gens ont pris les exceptions de la Bible. On a amplifié les exceptions et on a dit, voici comment vous devez vivre dans la disette, parce que l'apôtre Paul a vécu dans la disette. Vous comprenez ceci? On a pris des textes, on les a isolés, on a construit toutes sortes de doctrines et de théologies parce qu'au fin fond, on croit que la pauvreté égale la sainteté. Parce qu'au fin fond, on a toujours cru à l'enseignement qu'on avait reçu dans notre ancienne église. Je parle de l'église du Québec. Cette église qui disait on doit faire des vœux de pauvreté parce que la pauvreté égale la sainteté. Mais comprenez ceci. Visiter des pays où ils sont très, très pauvres, est-ce que ces gens-là sont plus saints que ceux qui vivent dans plus d'abondance sur le plan matériel? Non! La sainteté n'a rien à voir avec nos biens matériels. Amen! Donc, vous pouvez être très, très pauvre et très pécheur aussi. Amen! Alléluia! OK! Donc, je reprends le verset 44, parce que là, vous êtes devant un choix. J'aimerais vous le dire. En ce moment, c'est soit que vous acceptiez que la Bible dit vrai et que la pauvreté est une malédiction. Vous devez le croire. Si vous ne croyez pas, bien toutes les autres choses, vous n'aurez pas de fondement. Vous devez comprendre, la Bible dit une chose, c'est à vous de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, dans votre cœur. Je vais le relire. Comprenez-vous pourquoi c'est important? Parce que si vous ne réalisez pas que la pauvreté, c'est une malédiction, vous allez tolérer la pauvreté dans votre vie. Moi, je veux m'opposer à la malédiction comme je m'oppose au péché dans ma vie. Je dois m'opposer. Non, ceci, ça fait partie de la malédiction. La malédiction ne doit pas avoir rien à voir avec moi dans ma vie. Moi, j'ai choisi d'être un enfant de Dieu dans la bénédiction, dans la sainteté, dans la santé, dans la bénédiction à tous les niveaux. Amen. Mais si je tolère la pauvreté et je l'accepte, si j'accepte d'être pauvre pour Jésus, de souffrir pour Christ, vous verrez la vraie souffrance dans quelques instants. Verset 44 dans Deutéronome 28. Ce sont eux, les immigrés du verset 43, ce verset avant, qui vous prêteront alors que vous, vous n'aurez plus rien à leur prêter. N'a plus rien à leur prêter. Ils seront au premier rang et vous au dernier. Pourtant, la bénédiction nous dit Vous serez la tête, vous serez toujours en haut, jamais en bas. Alléluia. Moi, je préfère la bénédiction. Être toujours en haut, jamais en bas. Alléluia. Mais vous savez, moi, je me vois depuis des années comme ça. Je me vois béni de Dieu. Je me souviens même, j'étais adolescent ou peut-être à 20 ans. Je me souviens d'une scène, j'arrivais à la maison chinoise à l'époque, le restaurant. Et peut-être je fréquentais Mathilde à l'époque. Et puis moi, j'arrive. Et puis là, ma voiture peut se stationner juste devant la porte. Et là, les jeunes de la jeunesse me disaient, « Ben oui, je sais, toi, tu as le droit au meilleur stationnement, je le sais, parce que toi, tu as un bon Dieu. » Mais même à l'époque, je prêchais que mon Dieu est bon. Je suis favorisé du bien-aimé. Partout où je vais, la faveur de Dieu m'accompagne. La faveur, la grâce de Dieu m'entoure. Alléluia, comme un bouclier. Alléluia, je me vois béni de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut croire à la bénédiction aujourd'hui qui se manifeste dans vos vies. Amen. Donc, vous serez toujours les derniers. Verset 48. Vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif. Faim et soif. Aimez-vous ça, avoir faim et soif quand vous voulez manger? Vous êtes, je ne sais pas, en voyage et là, vous aimeriez boire quelque chose, mais vous regardez dans votre porte-monnaie, vous n'avez rien. Et là, vous devez souffrir la faim. J'ai faim et j'ai soif. Ce n'est pas une bénédiction, ça. Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements. Est-ce que vous êtes capable de vous voir dire « j'ai jamais de vêtements » Gloire à Dieu. Vous manquerez de vêtements et vous serez privé de tout. Privé de tout. C'est ça, la malédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Plusieurs chrétiens évangéliques vivent dans une boîte théologique érigée par la crainte. Ils vivent derrière des murs de crainte. Ils raisonnent, non, moi je ne peux pas croire à ce message que le pasteur Joël prêche sur la bénédiction parce que ce n'est pas ce que j'ai toujours entendu. Pourtant, Dieu les appelle à vivre comme des êtres spirituels. Dieu ne vous appelle pas à vivre comme des êtres théologiques. La théologie, c'est l'étude de Dieu. C'est bien d'étudier des choses sur Dieu, mais c'est préférable de connaître Dieu. Ce qui est triste et tragique dans le corps de Christ, c'est quand nous sommes intellectuel. Et là, tout ce qu'on connaît sur Dieu doit passer par notre cerveau. On doit tout comprendre mentalement. Et là, quand on a un enseignement qui est la vérité de la parole de Dieu, on est bloqué. On est bloqué parce qu'on vit dans une boîte. On vit dans une boîte qui est... Non, c'est pas ce que j'ai toujours entendu dire. Ça ne peut pas être vrai. Je dois toujours demeurer fidèle à ma conception limitée de la vérité. Mais aujourd'hui, ma prière pour vous, c'est que vous allez laisser tomber ces murs-là. Les murs qui ont été érigés par la crainte. Ah, j'ai peur de ce message. J'ai peur des finances. J'ai peur d'ouvrir mes enveloppes de cartes de crédit. J'ai peur d'ouvrir mes enveloppes de mes relevés bancaires. J'ai peur. Plusieurs chrétiens évangéliques sont comme ça. Vous avez peut-être dit, mais pourquoi tu parles des évangéliques? Parce que nous sommes évangéliques. Nous sommes évangéliques, nous croyons dans l'Évangile. Nous croyons dans l'Évangile, la bonne nouvelle. Mais plusieurs d'entre nous, on a totalement fermé la porte à une grande portion de l'Évangile. Une portion de l'Évangile, en fait, c'est la délivrance des œuvres de Satan. La pauvreté, c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Je vais ouvrir une parenthèse concernant la malédiction. Nous entendons souvent parler de la malédiction de la loi, ce qui est bien d'entendre parler de ces choses-là. Mais sachez que la loi divine n'a jamais été une source de malédiction. C'est plutôt la désobéissance à la loi divine qui nous fait expérimenter la malédiction. L'obéissance au Seigneur nous connecte à la bénédiction divine. Amen. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est croire Dieu, croire la parole de Dieu, plutôt que les opinions populaires si bien répandues. Aujourd'hui, si vous appliquez la connaissance que vous recevrez dans ce séminaire, et si vous acceptez de souffrir pour Jésus-Christ, une fois que vous aurez reçu la révélation, votre vie pourra changer sur le plan économique et totalement. Gloire à Dieu. Je vais vous montrer comment vous pourrez souffrir pour Jésus-Christ. Dans quelques instants, on va prendre une pause et après, vous allez découvrir des grandes choses sur les finances. Mais là, vous allez être devant un choix aussi. Est-ce que j'accepte de souffrir pour Jésus-Christ? Maintenant.